Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, 9h midi. Ok, retenez bien cet horaire, c'est 9h maintenant. 9h midi, la 13e saison des grandes gueules du sport. Pour notre plus grand plaisir, vous êtes très nombreux à nous écouter en direct. Vous êtes également très nombreux à nous écouter en podcast. Merci de votre fidélité. Toujours ce matin avec cette belle bande hein, de trois compagnons. Il y a quand même Pascal Duprat, il y a quand même Fred Weiss, il y a quand même Jérôme Pinault. Ils s'adorent, il faut le savoir, mais ils ne sont jamais d'accord. Et je vous félicite pour ça. 11h45, sachez-le, c'est votre moment, les auditeurs, cette saison. Vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Vous pouvez directement interpeller les GG sur l'émission de ce matin. Un seul mot d'ordre, le 32-16. Il y a un débat, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Eh bien, vous venez leur dire directement. Voilà. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Alors une petite sensation là, pour vous c'est quoi le débat caché? Ah, faut se mouiller un petit peu, voilà, c'est notre jeu. Ah, ça va vous plaire, ça je peux vous le dire, ça va vous plaire. C'est quoi le débat caché, Fred?
Moi je pensais à l'évolution des règles du basketball aux Philippines.
Oh,
on va mettre une ligne à 4 points là-bas, il existe déjà, il y a déjà eu un 4 points de marqué, donc je me disais que ça pourrait être un débat caché.
La ligne à 4 points, mais tu proposes autre chose que du basket,
Sicuri,
mon Fred.
Sicuri va jouer aux Philippines et
il devrait cartonner, je pense.
Oui, très bien, donc la ligne à 4 points.
La ligne à 4 points, l'évolution des règles.
Oui, c'est vrai, c'est un bon débat, un bon débat caché, c'est vrai.
Exactement.
Il en connaît un rayon sur les règles, attention.
Pascal Duprat.
Plutôt la sortie médiatique d'Anne Hidalgo sur la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Elle a dit oui, non, mais.
Non, voilà. Mais.
Oui, toujours mais. Pas à vente, mais.
Mais. Ouais, okay.
Oui, mais.
Ok, ouais. Pourquoi pas. Jérôme Pinault, une idée de débat caché?
J'allais parler de ma copine aussi, Anne Hidalgo. Je pense que tu veux nous parler du fait qu'elle veuille garder les anneaux sur la Tour Eiffel.
Ok, pas mal aussi comme débat.
C'est moins, ça, moins bien, mais oui, pas okay. Mal.
Bah, la réponse, vous savez quoi, c'est dans 25 minutes.
C'est quand même un peu mieux que les 4 points aux Philippines.
Mais c'est une évolution de règles.
Si on commence
juste
à parler du basket
c'est
aux Philippines,
du physique, quoi.
Ouais. Tu fais 10 émissions qu'il faut qu'on fasse.
Ouais, c'est surtout qu'on fait une émission de 24 heures. C'est-à-dire qu'on a vraiment utilisé tous les débats et tous les sujets. Quoi.
Les mecs, première émission de l'année, on fait un débat sur les paniers à 4 points aux Philippines.
Quoi,
on a été en vacances jusqu'à
hier. C'est concernant pour ma maman, ça l'intéresse. Forcément. Bon, ce sera à 11h30. Restez bien avec nous, les copains.
Ta maman s'appelle Philippine?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. C'était pour dire que c'était concernant pour le grand public.
Ah oui, d'accord.
Mais on peut l'appeler Philippe, il dit que. Bref. Achiche Chavé a dit un jour, ou une citation pour débuter cette nouvelle heure, il ne faut jamais ternir sa mauvaise réputation.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le médicament n'est pas un produit comme les autres.
Hein, moi je vous parle vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein.
Mal utilisé, il peut être dangereux.
De braves jeunes drogués tombent dans le cyclisme.
Il contient des substances actives qui ont des effets sur votre organisme.
J'ai gagné.
T'es sous antibiotiques?
Les médicaments, ne les prenez pas n'importe comment.
Bon, alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant qu'ils battent les records. Hein.
Comprimé, vous pouvez faire des 100, il sera votre meilleur atout durant votre entraînement. D'ailleurs, plus besoin d'entraînement.
Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré.
Alors, il est désormais le grand favori de l'US Open. Après les éliminations surprises de Carlos Alcaraz et de Novak Djokovic, Yannick Sinner semble intouchable. Le numéro 1 mondial, empêtré avant la quinzaine new-yorkaise dans une affaire de dopage, pourrait remporter son deuxième grand chelem de la saison. Mais si c'était le cas, pas sûr que l'image du tennis en sorte renforcée. La musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Jérôme Pinault?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste de tennis, Anthony Reich. Bonjour Anthony.
Salut les grandes gueules. Salut.
Alors comment l'Italien déjà a traversé cette première semaine à New York, après la polémique évidemment?
Et évidemment, il est arrivé sur la pointe des pieds à New York, Yannick Sinner, pour son tout premier entraînement. L'Italien a été très bien accueilli par le public, recevant une belle ovation lors de son entrée sur le Haut-Turin qui était ouvert pour l'occasion, ce qui a dû le rassurer. Et puis le numéro 1 mondial a dû ensuite passer devant la presse, une première prise de parole. Parole très attendue depuis l'éclatement de l'affaire, où il a clamé évidemment son innocence après s'être tout de même séparé d'une partie de son staff. Il a fallu ensuite aller sur le terrain et la compétition. Une entrée en lice au premier tour en mode diesel où Yannick Sinner, d'abord fébrile, a perdu le premier set face à McDonald. Une victoire qui a dû le soulager, à la suite de laquelle il a à nouveau remercié le public qui l'avait très soutenu pendant cette rencontre. Depuis, la machine s'est mise en route, plus aucun set perdu. Le voilà en huitième de finale. En toute discrétion, il répète à l'envi qu'il reste dans son coin. Sinner est désormais l'ultra favori, tu le disais Jean-Christophe, de cette US Open après les éliminations de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.
Merci beaucoup Anthony, tu restes avec nous pour quelques précisions s'il y a besoin évidemment durant ce débat. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner désormais à l'US Open? Tu parlais de sa première conférence de presse, bah justement je vous propose de l'écouter sur, on va dire, sa nouvelle réputation ou prétendue réputation. L'Italien, on l'écoute.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que, dans mon esprit, je savais que je n'avais rien fait de mal. J'ai toujours eu l'intention d'être un joueur loyal. Évidemment, cette affaire pourrait changer certaines choses, mais ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles. Je sais qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Mes proches savent que je ne ferai jamais ça et ils se serrent les coudes. Pour ce qui est de la réputation, nous verrons au fil du temps, parce que ça, je ne peux pas vraiment le contrôler. I can't
really control. Eh oui, ne peut pas forcément le contrôler, même si c'est vrai que l'accueil du public a été plutôt bon. Faut-il souhaiter sa défaite? Tu dis oui, Jérôme, pourquoi?
Oui, parce que ça va encore une fois, enfin, ça va ternir l'image du tennis et surtout, c'est un, pour moi, un garçon qui ne devrait pas être là. Moi, j'arrive d'un sport où le dopage est un vrai problème. Pour moi, cette histoire est rocambolesque et faire au moins l'impasse sur ça pour éclaircir les choses. Comment tu peux, toi, virer ton staff en disant, mais moi je joue au tennis parce que je sais que j'ai rien fait, mais tu les as virés quand même, les mecs. Ensuite, le tennis a quand
parce
même.
Parce qu'ils ont commis une erreur.
Le tennis a le don de nous inventer des cas positifs, non positifs. Rappelez-vous Richard Gasquet à la cocaïne en ayant embrassé quelqu'un en discothèque. Du rarement vu, du quasiment jamais vu. Et c'est toujours la même chose en fait. C'est dès qu'on touche à une star du sport, que ce soit dans ce sport-là ou dans un autre, il y a toujours une bonne excuse. C'est-à-dire que là, c'est le masseur qui avait pris, mais qui l'a massé en ayant un doigt coupé. C'est le steak haché de Alberto Contador pour les 0-0-0. Ils dominent, ils sont les plus forts, mais quand eux, ils sont dopés, il n'y a pas de problème. Ça jette surtout le pauvre et un vrai doute sur les performances de ce type. Et moi, je pense que de lui-même, si. Il aurait dû déjà se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision ensemble. Je vais à l'US Open, avant d'y aller, je vous vire, et je vais jouer, je vais gagner le tournoi. T'es pas crédible. Quoi qu'il arrive, t'es pas crédible. Tu mets une sale image sur ton sport. Déjà que le tennis en a pas besoin, je pense que c'est le coup de trop. Rappelez-vous, il y a Simona Halep, il y a pas si longtemps, qui a été blanchie par le tribunal arbitral du sport. Moi, dans ces cas-là, je pense à des garçons comme Franck Bonamour, par exemple, qui lui est aujourd'hui suspendu par suspicion de prise de transfusion sanguine, avec une anomalie dans son passeport biologique, qui lui ne peut plus exercer son métier, alors qu'on n'a jamais détecté de produit dans son corps. Et un autre, qui est numéro un mondial du tennis, il faut bien le dire, c'est le tennis, lui nous explique qu'il a été massé, et donc, non, mec.
C'est pas nous qui l'a expliqué, c'est une commission qui l'a blanchi.
Ouais, et qui va bien dans le sport. Je peux te dire que s'il fait du vélo, il a beau essayer de te dire les mêmes arguments, ça va pas passer.
Pourquoi on devrait souhaiter sa défaite.
Est-ce que tu as les preuves? Il s'est défendu, il a proposé des choses, il a expliqué comment ça avait pu se passer. On a trouvé une quantité infime de ce produit dans son corps. Donc, tout pareil, c'est plausible pour la commission, encore une fois. Je ne suis pas spécialiste du dopage.
Mais puis on sait que les commissions sont hyper neutres, il n'y a pas de souci.
Oui, mais à partir de là, soit tu es suspendu 2 ou 4 ans, soit tu n'as rien.
Évidemment, il a été blanchi. Il a rendu le prize money et compagnie, mais il n'a pas été suspendu.
Mais c'est logique. Tu sais pourquoi? Et je vais t'expliquer pourquoi. Il a rendu le prize money. Parce que quand il a fait la compétition, il avait dans son organisme une substance qui était dopante.
Interdite. D'accord.
Donc à partir de là, on invalide ce tournoi. Sauf que, comme l'explication est venue après, on ne peut pas le suspendre, vu qu'il s'est défendu par rapport à ça. Donc le prize money est enlevé logiquement, parce que c'est la règle du dopage. Et là, je sais que tu ne peux pas me contredire. Mais par contre.
Pas présent dans l'organisme, hein? Mais toi, tu parles d'un produit qui n'était plus présent. Donc, il a été positif à un produit présent, donc on lui enlève son prize money. Mais une fois que le produit est plus présent,
ça n'a aucun rapport. C'est la manière dont le produit est arrivé dans son corps sur lequel il s'est défendu.
Et là, vous y arrivez sur le.
Mais encore une fois, si on n'y croit pas, il faut arrêter de croire au sport, il faut arrêter de regarder du sport.
C'est pas du sport, c'est du dopage.
Oui, mais alors,
et alors il faut plutôt s'en prendre. Il faut plutôt s'en prendre aux instances qui sont chargées de définir si effectivement le sportif est dopé ou non.
Est-ce qu'en tant que spectateur passionné de sport
Est-ce que ça change quelque chose pour toi?
Bah ça change. Ah bah oui, moi ça me gêne qu'avec.
Mais alors on regarderait plus depuis des décennies.
C'est dans ce cas-là, c'est pas la faute de Sion. Dans ce cas-là, faut l'interdire de jouer et c'est tout.
Bah oui.
S'il joue, pourquoi on souhaiterait qu'il perde?
Ah non, mais évidemment parce que la question elle est posée comme ça. Mais si tu me dis est-ce qu'il aurait dû participer au tournoi, je te dis non plus.
Oui, mais il aurait dû suspendre. Sauf que la commission a décidé. Tu es qui, Jérôme, pour décider que cette commission n'a pas le droit de revenir sur sa décision?
Et grâce à ici et grâce à ces studios, on peut aussi s'exprimer. Moi, je te dis que j'ai pas confiance non plus dans toutes les commissions. Moi, je te dis
c'est ça le problème. Donc, faut arrêter en fait.
Bah, faut pas arrêter.
C'est pas si dans ton au niveau.
Je suis intimement persuadé que dans mon sport, lorsqu'on arrive à un certain niveau de très haute performance, la commission n'a pas le même œil que sur les petits coureurs.
D'ailleurs, les joueurs de tennis s'en sont plaints. Ils se sont dit, on n'est peut-être pas tous logés à la même enseigne. Je précise juste ma question. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner? On parle de l'image du tennis, évidemment.
C'est pour ça que moi, j'ai dit oui.
Souhaiter seul dans son canapé et mettre des petites aiguilles dans une poupée. Vous voyez, c'est juste pour l'image du tennis.
Mais ça veut dire quoi? Qui joue? Tu penses, toi, que le tennis global joue contre lui, alors?
Moi, je pense que si Sinner gagne ce tournoi, eh ben, tu rajoutes de la suspicion à la suspicion. Ça, c'est une certitude. Je te dis pas qui.
Ça voudrait dire que c'est le seul vilain petit canard, alors?
Alors, oui, Pascal, c'est celui qui a contrôlé deux fois positif.
Pascal, je te dis un truc.
Deux fois.
Moi, je peux te dire, j'ai vécu l'avant et l'après Contador, par exemple. Après, toutes ces victoires ont été entachées de suspicion et n'ont pas soulevé les mois comme celles d'avant. Il a une histoire. Il fait un anévrisme, il est opéré, il revient, il est au top niveau, il domine, il embête Armstrong. Ça a fait plaisir à tout le monde. Il est positif à la nandrolone. Je peux te dire qu'après, c'était plus du tout les mêmes émois. C'est pas du tout les mêmes émotions.
Juste Pascal, une précision d'Anthony Ress et je te donne.
Pascal, en fait, il y a deux choses dans le cas Sinner. Il y a le deux poids de mesure. C'est la première fois depuis des années qu'on a un cas de dopage, ou en tout cas de suspicion de dopage, où autant de joueurs s'expriment de façon ouverte en disant on se fout de nous. Et moi, je suis Simona Halep, je suis Mikael Ymer, le Suédois qui a aussi été suspendu pendant un an parce qu'il avait eu des problèmes de no-show. Derrière, eux, ils n'ont pas joué pendant des mois. Simona Halep, on ne l'a pas vu à Roland-Garros pendant un an. Et après, elle a dû batailler pour retrouver des wildcards. Elle avait perdu son classement alors que c'est une ancienne numéro 1 mondiale. Donc, tu ne peux pas faire.
Mais il y avait des explications sur les no-show? Parce qu'en fait, si t'as pas d'explication, là...
Simona Halep, c'était pas un no-show, c'était une histoire de contrôle positif. Le no-show, c'était pour Mikael Ymer, qui était un joueur suédois, mais d'accord, de moindre importance.
Oui,
il a été suspendu à titre provisoire pendant un an.
Sauf qu'il a pas été contrôlé, il a pas apporté une explication s'il avait été contrôlé dopé. Alors que là, t'es en train de me parler de quelqu'un qui a fait un no-show, donc qui ne s'est pas présenté, donc t'as 99% de chance qu'il ait été dopé.
Simona Halep, c'est le même cas que Sinner. Simona Halep, c'est le même cas que Sinner. Et elle a été suspendue.
Anabolisant, oui, c'est ça.
Je suis complètement d'accord, mais alors là,
ça veut dire que tu fais deux poids de mesure et surtout tu révèles une affaire plusieurs mois après le traitement du dossier.
Moi, je veux bien entendre ce que vous dites. Ce que je ne peux pas entendre, c'est tout le doute qui entoure cette affaire. Il y a énormément de choses un peu troubles.
Oui, mais c'est
au moment où le mec est numéro un mondial. Les faits sont là. Enfin, à un moment donné, il faut le mec qui vire son staff. Alors oui, ils ont fait une erreur, d'accord. Mais le produit, il est là, il est positif. Il a été suspendu deux jours. Entre le 8 et le 11 avril, c'est ça.
Non, mais Jérôme, par rapport à son staff, il est obligé de le virer. Il peut pas considérer
qu'ils ont fait une erreur.
L'explication qu'il donne, il est gardé le staff.
Le staff, il ne faut pas le virer quand l'affaire devient publique. Si tu sais que tu as eu ça, il le sait lui depuis un moment qu'il a eu le contrôle positif.
Depuis mars dernier.
Tu vires ton staff direct.
En termes de com, c'est plus intéressant.
Ben oui, mais en termes de com, donc justement, s'il gagne ce tournoi, je ne souhaite pas la défaite, mais s'il gagne ce tournoi, il jettera encore un peu plus le doute sur ses performances.
Ok,
ben
alors, Pascal,
si je veux bien vous suivre, ça ne change rien qu'il le gagne ou qu'il ne le gagne pas. Ça ne change rien puisque, en fait, Jérôme, ton jugement est définitif. Alors moi, je dis simplement une chose, c'est que Sinner, il s'est défendu, parce qu'il a le droit à se défendre, et qu'il y a des commissions qui ont jugé que ce qu'il disait était recevable, tout simplement. Donc, à partir de là, il y a présomption d'innocence. C'était donc quelque chose qu'il a pris alors qu'il n'en avait pas l'intention. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il me semble qu'il faut que les instances qui sont chargées de contrôler le dopage, eh bien, arrêtent, donc trouvent les subterfuges pour arrêter de laisser place à l'interprétation, tout simplement.
C'est ça le souci.
Ça, il y a ça, peut-être. Je te le confirme, Pascal.
C'est valable dans ton sport aussi.
Sports, oui, évidemment.
Bah oui, parce que n'importe qui regarde le Tour de France, il se pose des questions. Si tant est qu'il a fait un peu de sport dans sa vie, même si ça n'a pas été une star de son sport, quoi. Mmh. Tu dis comment les types ils font, quoi. Certains, comment font-ils?
Non, mais pour reprendre des minutes, débat, le débat donc, plus élargi, c'est quoi? C'est si les instances avaient un peu plus de sérieux et avaient un peu plus d'engagement sur la sanction et sur la recherche. On aurait un peu plus de facilité à expliquer certaines performances.
Absolument.
Là aujourd'hui, on
et
parle d'un cas. On là,
et
on parle
une uniformité aussi. Surtout une uniformité. Que le tennis, c'est une
et
façon
ça, et ça
de
nous aiderait, nous passionner. Là, je te parle d'un cas aussi où là, vous êtes obligé de me rejoindre sur le fait qu'il y a quand même ce contrôle. C'est enfin ok, il a donné des explications, mais ça, évidemment, on en fait un débat. Donc c'est bien qu'il y a doute, c'est bien qu'il y a un vrai problème. Et les tennismans entre eux, pour en avoir parlé un peu avec Sarah aussi, ont des doutes et sont pas contents que le mec soit là. Alors. Et ils disent tous, il y a deux poids, deux mesures. Ouais,
je reprends la main.
Non, mais évidemment.
Deux poids, deux mesures.
Le problème s'appelle instance.
Deux poids, deux mesures pour les joueurs de tennis, mais c'est également dans le cas dans les autres sports où il n'y a pas les mêmes instances qui, évidemment, régissent le dopage. Il y a 3 ans, je vais vous conter une histoire. Il y a 3 ans, ça va t'intéresser, Fred. C'est un basketteur italien, il s'appelle Riccardo Moraschini. Il a été contrôlé positif à la même substance que Yannick Sinner. Et comme son compatriote, il a été contaminé par un prêt contenant du clostébol. Lui, il a été suspendu 1 an, alors que Sinner, vous le savez, il a été innocenté. Il faut savoir que l'ATP s'appuie, elle, sur un organisme indépendant, alors que la Fédération italienne de basket est soumise à la juridiction du Tribunal national antidopage italien. Et ce tribunal national a mis déjà 3 mois et demi à reconnaître la thèse de la contamination, tout en condamnant le basketteur à 1 an de suspension, le minimum requis par le règle antidopage intérieur. Donc déjà, il y a du deux poids, deux mesures, évidemment, entre les tennismans, évidemment, entre les sports. Donc
c'est l'uniformité, c'est bien ça le problème.
Ça. Et maintenant, écoutez un tennisman, Hugo Humbert, c'était cette semaine au micro d'Eric Salio.
C'est la façon en fait dont ça a été géré aussi. Dans ce cas-là, il fallait pas le dire, tu vois, j'aurais préféré qu'on ne le dise pas. Ça met le doute aussi à tous les joueurs. Lui, Sinner, il y est pour rien. C'est pas cool quoi quand tu vois comment d'autres dossiers ont été gérés et que lui, il a pu continuer à jouer. Et puis d'un autre côté, ils disent qu'il est blanchi, mais il perd ses points. Et à Indian Wells, c'est un peu bizarre. C'était un peu décevant pour les joueurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal pris. Ouais. Tous les joueurs en ont parlé et puis c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait aussi perdre, je trouve, confiance aussi en ton sport. La façon dont c'est géré, tu te dis, bon, il y en a qui sont un peu plus protégés que d'autres.
Et c'est pas un sentiment isolé, celui d'Hugo Humbert.
Non, faut savoir que dans le tennis, le circuit professionnel, c'est un tout petit monde. Ils se connaissent tous. Mm-hmm. Dans tous les vestiaires des grands chelems, ils se voient toutes les semaines sur les gros tournois. Je peux vous dire que Yannick Sinner, là, quand il a dû arpenter pour les premières fois les couloirs de l'espace players, des joueurs, ça a dû être difficile. Hein. Il y a eu énormément de réactions. Lucas Pouille, à notre micro, au moment de l'éclatement de l'affaire, il était en colère, comme d'autres, mm-hmm. comme Nick Kyrgios, comme Denis Shapovalov. Le Canadien.
Dire que c'est un cas isolé ? Moi, c'est ça la question. Ça voudrait dire, moi, je défends plutôt la thèse à ce moment-là. Si vous me dites que Tsiner, il est dopé, pourquoi que lui alors ? C'est ça la question. Il doit y en avoir certainement beaucoup d'autres.
C'est pas la thèse qu'on soutient. La thèse, c'est plutôt de se dire, sur l'image du tennis, comment ça peut se passer avec une victoire de Sinner. Parce que, hasard ou coïncidence, le moment où Sinner éclate au grand jour, son premier grand chelem, je rappelle que c'est en Australie en 2024, son premier, hein. Premier, alors, ça fait 2-3 ans qu'on en parle dans le circuit, mais c'est son premier grand chelem. Il gagne après Indian Wells, il commence à gagner des Masters 1000, il va peut-être gagner un deuxième grand chelem en un an.
Au moment où il est contrôlé, alors on n'a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais au moment où il est contrôlé, factuellement, on sait qu'il va être numéro 1 mondial. Puisque c'était prévu par rapport au calcul, le fait que Novak Djokovic ne soit pas forcément présent sur le
mais
circuit.
Mais tout ça pose un problème.
Il ne faut pas arrêter de dire qu'il est peut-être il a été positif. Il y avait dans son organisme un produit interdit. On est d'accord.
Infime d'une proportion.
Il avait
infime
un produit
et avec une explication plausible.
Tout à l'heure, l'histoire de l'Italien, du basketteur. Moi, je vais te raconter quelque chose dans le cyclisme aussi. Il y a une molécule qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à dissocier, c'est-à-dire que après. À beaucoup d'analyses, il y avait, rappelle-toi, ce produit qui existe toujours, le salbutamol. Le salbutamol, c'est un produit que tu peux trouver dans un spray pour les asthmatiques, qu'on appelle la ventoline, ou le Symbicort. D'accord ? C'est la même molécule que le Kenacort, qui te multiplie tes performances. moi je vais dire dans mon sport, on va pas se cacher, ils sont tous devenus asthmatiques. Parce que tant qu'ils n'ont pas pu aller chercher l'infime produit qu'il y avait, c'était oui ou non. On n'arrivait pas
à doser,
à contrôler le dosage. Donc moi, avec mes vieux réflexes,
je marche à l'aventure. Il y a beaucoup cette excuse dans
évidemment.
Le vélo.
Et moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois ce contrôle-là, avec mon vieux réflexe, déformé certainement de cycliste. Fous-toi pas de ma gueule, mec. Voilà ce que je me dis. Il a une toute petite dose. Mais comme Alberto Contador, petite dose.
C'est là qu'on a
moi,
pas la même vision. Moi, ce que je vois quelqu'un qui a eu un contrôle antidopage, effectivement, sur lequel il a été positif. Mais qui a
double
été expliqué
positif, hein.
Qui est double positif double et positif. qui a été excusé entre guillemets par une commission qui est apte à le faire. Et de mon point de vue, il y a plus rien. Le dossier est clos.
Et pour en revenir à ce que tu disais dans le vestiaire, alors la bonne nouvelle, si il rase les murs et que les autres ne lui parlent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai aussi assisté à l'après-affaire Puerto dans le vélo. Il n'y en a pas un qui était fâché contre le mec qui nous l'avait fait à l'envers. Ils étaient plutôt tous très contents.
Oui, mais ils sont
l'histoire a raconté après que la cinquantaine de coureurs qui étaient contents, ils étaient tous chez le même médecin. Donc
oui, mais ma question, c'est ils ne sont pas contents. Pourquoi? Ils ne sont pas contents parce que c'est un mec qui se dope, ou ils ne sont pas contents parce qu'il y a deux poids, deux mesures et que lui,
les deux,
grâce à ce qu'il a apporté comme preuve, il a été reconnu non coupable.
Non, mais t'es comme moi, au sein d'un milieu, moi, s'il y a un mec qui revient sur une course, qui a trouvé une espèce bidon, mais qui est au top niveau, on sait qu'il peut être éventuellement. Avec les instances, ça peut passer. Le mec, il vient et il me redomine. Mais moi, j'ai pas envie de lui dire bonjour. Mais c'est pas
je vais répondre à ta question. Je réponds à la place d'Hugo Humbert et je parle sous contrôle d'Anthony Reich, hein, qui le connaît largement mieux que moi. Hugo Humbert, et comme d'autres joueurs de tennis, ils doivent avoir un peu les boules parce qu'ils se disent, moi, si je suis dans le même cas, je pense que je ne fais pas l'US Open. Et la deuxième chose, c'est que quand tu aimes ton sport... t'as pas envie d'avoir ce genre d'affaires qui éclate, et parce que tu te dis c'est hyper mauvais pour nous.
Et tu vois, ce qui est frappant chez Hugo Humbert, ce qu'il dit, on s'est regardé quand il l'a dit, j'aurais préféré que ça sorte pas. Et là, quand on en arrive là, attention danger.
On terminera là-dessus avec cette phrase en suspens. Voilà, on a envie de dire.
Dans le vélo, moi j'ai peur qu'il y a certaines choses qu'on ne dit plus, mais c'est pas pour ça que ça va mieux.
On reste là-dessus. Ouais, 11h26. Ça. Merci beaucoup Anthony Reich d'avoir été avec nous évidemment sur rmcsport.fr. Vous suivez l'évolution de l'US Open. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus Alcaraz, il n'y a plus le Joko, mais il y a encore Yannick Sinner. On se retrouve dans quelques instants pour. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que je sais que ça va vous plaire ce débat caché. Vraiment, ça va vous plaire. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes tous d'accord, moi, je ne serai pas d'accord avec vous. C'est sûr. Je ne serai pas d'accord avec vous.
Tu penses qu'on peut vraiment être d'accord sur un sujet de
non,
les trois?
Non, de toute façon, tranquille. Vous n'allez pas être... Non, c'est normal. J'ai bien vendu ou pas le débat caché?
Magnifique.
Ouais. Ah, bravo.
Il va falloir que ça marche. Hein. Là, je compte sur vous parce que si c'est un four, vous allez m'entendre. 11h26, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30, de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec Pascal Duprat, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Chers auditeurs, c'est votre moment dans 10 minutes. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un débat du jour? Eh bien, vous venez lui dire en face. C'est très simple. Voilà, on est tous des courageux. À chaque fois, on se dit, ouais, sur les réseaux sociaux, je vais lui mettre une quiche. Ben non, vous allez lui mettre en direct. Voilà, c'est plus simple, les copains. On se parle gentiment, agréablement, on débat. Voilà.
C'est ce qu'on fait avec Jérôme.
C'est de l'opinion, c'est des idées. On n'est pas d'accord, on a le droit d'être pas d'accord. Et bien, on vient se le dire.
En même temps, je peux pas, moi, j'arrive pas à t'atteindre.
Plutôt que se cacher là derrière l'ordinateur, on vient se le dire, c'est pas grave.
Évidemment.
On a le droit de pas être d'accord, les copains. C'est que du sport, c'est que de l'amour, on s'aime. Enfin, à une ou deux exceptions près. Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, le principe du débat caché. J'adore ce moment, je sais, vous aussi les auditeurs. C'est la même chose. Personne ne connaît ce débat. Il n'y a que deux personnes au monde. Rendez-vous compte, deux personnes au monde qui savent.
Quel privilège.
Mais oui, il y a le producteur et puis votre serviteur, évidemment. Le débat caché du jour. Il faut réagir, être sur l'instant, être sur l'émotion. C'est ça.
Ras-le-bol
symbole du bashing des Jeux, quoi.
La maire de Paris annonce ce matin dans Ouest France que les anneaux olympiques resteront sur la Tour Eiffel même après la fin des Jeux Paris.
Arrêtez, mais ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette.
Voilà, ça va peut-être désormais faire partie du paysage de la capitale.
Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que ça va être vraiment un héritage exceptionnel.
Et justement, il est question d'héritage dans le débat caché aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, vous l'avez entendu, l'information est sortie hier soir dans Ouest France. Tu avais raison, Jérôme Pinault, c'est bien le débat caché.
J'ai gagné quoi du coup ?
Tu as gagné ma reconnaissance, c'est déjà pas mal.
Bah c'est merveilleux.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé hier soir que les anneaux olympiques qui ont été installés entre le premier et le deuxième étage de la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques resteront sur le monument parisien. Voici ce qu'elle dit. En tant que maire de Paris, la décision me revient et j'ai l'accord du CIO. Donc oui, ils vont rester sur la Tour Eiffel. Notre débat, les anneaux olympiques qui restent sur la Tour Eiffel, pour ou contre ? Fred Weiss.
Contre.
Combien ?
Contre.
Combien ? Tu me dis combien ? Tu me dis pas pour ou contre, tu me dis combien ?
8.
Contre ! Pascal Duprat.
Pour, allez pour.
Il est pour. Jérôme Pinault.
8.
8, tu me dis combien ? Tu dis 8.
Contre, évidemment, contre.
Contre, évidemment. Fred, tu commences, pourquoi contre ?
Parce que le symbole de Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est pas les anneaux olympiques. Les anneaux olympiques, c'est une durée, c'est une période, c'est un moment de la vie. On a été très contents de les avoir. C'était une immense fierté. J'ai été très fier d'accueillir les Jeux Olympiques à Paris. C'était un moment passionnant, fantastique, bouleversant. Mais c'est fini. Quand c'est fini, en fait. Que les Jeux Olympiques, c'est pendant la durée des Jeux Olympiques.
La basque, tu donc, la gardes pas non plus, donc.
Non, je garde rien du tout, moi. Moi, c'est fini, on passe à autre chose. Encore, ou alors, on va relancer le marché noir et on va vendre de nouvelles tours Eiffel avec les anneaux en plus. C'est pour faire du business, je sais pas trop l'intérêt. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que les Jeux Paralympiques aient servi à quelque chose et que l'accessibilité dont on parle, ça soit intéressant. Ça me plairait. Parce que ça, c'est beaucoup plus important que des anneaux olympiques qui ne représentent que les Jeux Olympiques et pas Paris.
Le rôle des politiques, que ce soit dans le sport ou ailleurs, c'est de mettre en place des choses après des événements tels que les Jeux Olympiques qui soient voyants, vus par les populations qui utiliseront ces choses-là. Donc l'accès, la facilité à faire du sport pour tout le monde dans les milieux populaires, c'est ça son taf. À Hidalgo.
Ouais, c'est le pas seul héritage des anneaux
pour
c'est
que un peu ça flashe et que ça fasse bien. Et la deuxième chose que je vais dire sur ce sujet-là, c'est attention aux promesses d'Anne Hidalgo. Elle dit qu'on peut laisser, ce ne sera pas la première fois qu'elle fait une promesse qu'elle ne tient pas. Il devait y avoir une équipe cycliste professionnelle à Paris aussi.
Oui, je savais
qu'il n'y en a pas.
Tu allais revenir
donc
là-dessus.
Attention à elle. Moi, ce qui me gêne, c'est tout ce qui est visible et tout ce qu'elle dit.
Oui, non, mais.
En fait.
Il faut quand même.
L'héritage des Jeux. L'héritage des Jeux, Pascal, moi, je veux le voir dans les clubs. La licence qui baisse. L'accès au sport pour les gamins dans les quartiers. L'accès à tous les sites pour les personnes handicapées.
Et l'un n'empêche pas l'autre.
Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre.
Et voilà. Laissons le monument Tour Eiffel intact tel qu'il est. Bien.
La Tour Eiffel se suffit à elle-même.
Évidemment, Paris.
J'ai d'autres informations à vous donner là-dessus.
De Noël. Non, il faut lui laisser.
J'ai d'autres informations à vous donner, mais je vais laisser Pascal nous dire pourquoi il serait pour.
Non, mais Jean-Christophe, c'est vraiment. Jean-Christophe et Kylian, vous trouvez toujours des sujets.
C'est le producteur, hein, ouais. Kylian Véron.
Ah oui, vous êtes vraiment.
C'est un bon sujet, non ?
Oui, mais
t'es en difficulté, donc c'est pas un bon sujet.
Non,
quoi.
vous êtes pas nets tous les deux, franchement.
Mais ça, vous savez, Pascal, c'est pas.
Qu'est-ce que c'est que ce putain de sujet là? Mais bon, moi, j'ai
rien. Mais c'est le patrimoine de la France, quand même. C'est
moi, je pense que c'est bien, ça ne gâte rien, ça n'enlève rien. Les Jeux Olympiques ont été une réussite, ou sont une réussite, parce que les paras sont encore en cours. Et puis, ça n'enlève rien, bien au contraire, à la Tour Eiffel, qui est le symbole de Paris, que d'y ajouter ou d'y laisser les anneaux olympiques. Voilà, il faut
on pourrait mettre un ballon de rugby aussi, parce qu'on a eu la Coupe du Monde de rugby, peut-être qu'on pourrait rajouter un petit ballon de rugby sur le côté, etc.
Ouais, mais bon, là, on est dans la critique, on critique tout. Bref. Moi, je pense que c'est bien. Dans 50 ans,
on laisse une trace des jeux, certes, quelque chose de visible, voilà, pour papa, comme à Albert Ville, par exemple. Alors, mais les anneaux sur la Tour Eiffel.
Il n'empêche que ça, il faudra bien sûr profiter de cet engouement des Jeux Olympiques pour que nos politiques confirment davantage de moyens pour le sport, quel qu'il soit. Je suis d'accord avec vous, mais franchement, faire un débat pour ça, ces deux, ils sont pernicieux, ces deux types là, Kylian et Jean-Christophe. Ils mettent des débats juste pour nous mettre mal.
Alors je vais te dire je vais me justifier, mon cher Pascal. C'est pas juste pour faire du bashing sur les JO. Parce que pour le coup, et je trouve que Anne Hidalgo, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle avait prévenu tout le monde. Elle avait prévenu, et vous l'avez entendu, les pisserois, les gna 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 gna, vous allez voir, ça va être génial. Et résultat des courses, il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis, qui avaient envie de revenir en disant, mais on ne nous avait pas dit que ce serait génial. Anne Hidalgo, elle l'a dit. Donc ça, c'est la première des choses. Quand j'ai vu cette information, et je suis pro-jeu, et je suis à fond, je me suis dit... Attention à ne pas vouloir en faire trop. C'est-à-dire que la vasque olympique, on est tous d'accord pour dire que la vasque olympique,
il faut qu'elle reste
parce que c'est devenu un monument de Paris à part entière. Je trouve, en tout cas, c'est ma conviction.
D'accord avec toi.
Le cheval métallique, lors de la cérémonie d'ouverture, il est exposé actuellement à l'hôtel de ville. C'est un carton, tout le monde a envie de le voir.
Magnifique, ça.
Je trouve que l'exposer quelque part, ça fait partie de notre héritage des Jeux Olympiques.
Ça fait partie de l'héritage.
Complètement.
Avec d'autres choses beaucoup plus sociales et beaucoup plus importantes. On est
d'accord. Pensons à autre chose. C'est de moins visible, de moins symbolique, mais de beaucoup plus utile.
Mais c'est symbolique, mais je trouve que c'est important. Les anneaux, je me suis dit, les anneaux sur la Tour Eiffel, ça me gêne un petit peu. Déjà parce que les anneaux, c'est ultra protégé par le CIO qui en font un commerce. Et ça me gêne que ce soit sur la Tour Eiffel. Après, il y a autre chose.
Quand j'ai vu cette information, la Tour Eiffel avec les anneaux.
Anne Hidalgo a répondu parce que moi je me suis dit mais ben non parce que les jeux c'est éphémère.
Bien sûr.
Donc les jeux ne nous appartiennent pas non plus. C'est-à-dire qu'on va les transmettre, Los Angeles, tout ça. Bah c'est à eux de récupérer ces anneaux. C'est pas à nous de les garder ad vitam aeternam. Et elle a répondu à cette question. Elle a dit c'est très beau cette idée d'allier la Tour Eiffel, monument conçu comme étant éphémère pour une exposition universelle, ce qui est vrai. Gustave Eiffel l'a fait. Et finalement, moment éphémère qui aura aussi marqué Paris et notre pays ces jeux-là. Donc il y a deux choses éphémères qui resteront ensemble. Pourquoi pas ? Je ne suis pas encore très, très convaincu. Il y a autre chose qui me dérange un peu, mais on va dire que ça, c'est à la marge. C'est qu'en fait, les anneaux que vous voyez actuellement, ce ne seront pas ceux-là qui resteront. Parce que ceux-là, ils sont trop lourds pour résister durablement, et notamment avec les vents d'hiver. Donc en fait, il faut en fabriquer d'autres, grands, mais plus légers, qui peuvent être installés sur la Tour Eiffel. Je me dis, si on installe on désinstalle les anneaux pour en rajouter d'autres, parce qu'au moins, on peut les garder toute l'année. Je parle dans l'insymbolique, il y a un truc qui me plaît pas.
Plus, comme le dit Fred, c'est un instant. Les Champs-Élysées sont magnifiques dans son habit de Noël avec ses découvertes, mais à un moment donné, il faut les enlever. Tu peux pas faire toute l'année. Et là, pour moi, tu laisses un héritage en laissant une trace, en investissant dans le sport, en faisant de Paris 2024 le début de quelque chose. La vasque, pourquoi pas, comme tu dis, c'est un nouveau monument, mais ça suffit. Faut enlever les guirlandes après. Le reste, c'est du taf. Faut aller au boulot. Faut Et puis travailler pour l'héritage de ça.
Exactement.
Et ne pas, comme tu dis, en plus c'est enlever pour remettre. On n'a pas besoin de ça pour se rappeler. Moi, je veux me rappeler qu'il y a eu les Jeux dans mon pays dans 10 ans et raconter à mes petits-enfants parce que depuis, on va dans le métro en fauteuil roulant parce que il y a un stade à côté de chez moi grâce à tout ça. Pas parce
peut-être que
y a...
tu pourras aller voir.
Je leur montrerai des photos des anneaux sur la Tour Eiffel. Ça
la
suffira
maire de
largement.
Paris, tu pourras peut-être aller la voir dans 10 ans.
Je ne crois pas, non.
Et tu ne peux pas comparer avec la Tour Eiffel qui a été.
Tu diras, mais il y a des anneaux là, vous les avez mis pourquoi ? Donc, depuis, vous ne faites rien pour le sport olympique.
Exactement, mais juste pour revenir à la Tour Eiffel, elle a été sauvée au vote déjà. C'était un vote qui a permis à la Tour Eiffel d'être conservée. Et en plus, elle a servi à la radio-télécommunication. S'il n'y avait pas eu ça, elle aurait été détruite. Donc, tu ne peux pas comparer quel est l'intérêt réel des
anneaux olympiques.
Aucun.
Voilà, c'est un mouvement éphémère et on le garde juste pour les Jeux olympiques. Il y a autre chose, moi, qui m'a interpellé. Je me suis dit, et je te laisse la parole, Pascal, c'était juste... J'ai bien réfléchi sur le dossier. Bon, j'ai de la chance.
Mais
je me suis dit, souvent, la Tour Eiffel peut servir symboliquement à faire passer des messages politique. Vous vous souvenez, quand la Tour Eiffel est allumée aux couleurs de l'Ukraine, au moment de la guerre contre la Russie, et le CIO, par essence, ils se défendent de tout ça. C'est-à-dire que tu vas avoir les anneaux olympiques.
Et neutre.
T'auras un cahier des charges affreux.
Avec la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Je me suis dit, il y a un truc qui va peut-être gêner le CIO là-dedans.
Bien sûr. Bref, ouais. Le cahier des charges sera beaucoup plus important. Pascal. Forcément.
Oui, moi je voudrais dire une chose qui ajoute à ce que j'ai dit, à savoir Jean-Christophe, t'es un coquin. Parce que tu nous as dit avant, même si je serais contre vous, quoi que vous répondiez. Donc je m'en prends à me dire que si j'avais, comme mes collègues, répondu non, qu'est-ce que t'aurais dit puisque t'aurais donc dit oui, puisque t'aurais dit le contraire de nous. Quels étaient tes arguments pour dire que c'est bien qu'il y ait...
Non, je m'attendais...
T'es un coquin. Non. T'es un coquin.
Non, c'est pas ça. C'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de oui que de contre. Et moi, j'étais farouchement contre, justement. Et je me suis dit, si vous me dites tous oui, je vais vous rentrer dedans. Le problème, tu as raison, Pascal, c'est que si tout le monde m'avait dit on est contre... Là,
non, t'aurais été coincé.
Là, j'aurais été un peu coincé. Mais tu vois, comme quoi la magie est bien faite, tu as dit pour, donc c'était parfait.
Dis-moi merci, quoi.
La dernière
merci,
argument Pascal. Qu'on peut avancer, c'est dans quelle autre ville a-t-on laissé les anneaux? Nulle part.
Oui, mais la vasque olympique, c'est un peu pareil, tu vois. On peut aussi innover aussi en France.
Non, mais la vasque olympique, elle est présente dans beaucoup de villes où sont passés les JO, mais pas les anneaux.
Regarde la cérémonie d'ouverture.
Je suis d'accord avec toi.
Mais non, mais on a décidé.
C'est la polémique pour un problème.
Non, c'est pas ça.
Vous êtes d'accord tous les deux.
La symbolique, pourquoi pas. Mais attention à ne pas aller trop loin avec nous. La vasque, c'est génial.
On est d'accord.
Le cheval métallique, c'est génial.
Je manque depuis 5 minutes, je suis d'accord avec toi.
Mais qui êtes-vous, monsieur? Allez, 11h43, on se retrouve dans quelques instants pour votre moment. Les auditeurs, vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG. Vous venez lui dire. Et puis un certain Stephen Brun va venir aussi dans cette émission. S'il a quelque chose à nous présenter, à tout de suite sur RMC.
Jean-Christophe et Kylian, vous trouvez toujours des sujets...
RMC, jusqu'à midi.
Ah oui, vous êtes vraiment...
Les grandes gueules du sport.
Vous n'êtes pas nets tous les deux, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce putain de sujet, là?
Jean-Christophe Drouet.
Et c'était dit il y a quelques instants sur les anneaux olympiques, sur la tour Eiffel. D'ailleurs, en réécoutant cet extrait, on a l'impression que Pascal veut lâcher des insultes en disant « mais les deux, là ». Et puis il se dit « bon... »
Oui, c'est pas qu'une impression.
Oui. Puis il a hésité, il a dit non. Pascal Duprat, Fred Weiss, Jérôme Pinot dans cette émission dans les grandes gueules du sport. Et puis, une personne qui a longtemps fait les grandes gueules du sport, qui est parti, on le regrette évidemment, mais il est parti parce que... Maintenant, il a son émission. Il est au-dessus, évidemment. C'est Stephen Brun. Salut, Stephen.
Salut, Jean-Christophe. Salut, les GG.
Salut.
Ça fait quoi de revenir là, comme Stephen. Ça le dimanche?
Ça fait
déjà, il est 11h45.
C'est toujours avec le sourire qu'on arrive à 11h46. Je suis déçu. Je pensais voir mon Pascalou là autour de la table. Non, il est encore.
Bah, il viendra bientôt dans le studio. Il n'est pas toujours dans le studio. Il habite dans le sud. Hein, mais il viendra. Il viendra, évidemment. Alors, Steve.
Oui.
On est très heureux de t'avoir dans l'émission. D'ailleurs, reviens quand tu veux, évidemment.
Oui, bon, après, j'ai vu le débat. Faut-il souhaiter la défaite de Nick Sinner? J'ai compris pourquoi j'avais quitté cette émission.
GG un jour, GG toujours, tu sais ce qu'on dit. Mais tu viens nous proposer une nouvelle émission, dans la continuité de Stephen Tam la saison dernière. Présente-nous cette émission, c'est 13h à 15h. On va écouter le générique juste avant. Hein. Allez, écoute le générique de la nouvelle émission avec un magnifique jeu de mots.
RMC. Jusqu'à 15h, Stephen Brunch.
Benoît Boutron, Stephen Brun.
Stephen Brunch. Alors, on va
commencer le jeu de mots, pas
Stephen
Brun, tu rajoutes CH, ça fait brunch.
Ah, super. Bravo. Il y a des auteurs. Hein.
Brainstorming de 15 jours.
Ouais, j'imagine. Au moins. Alors,
écoute, c'est une émission 13h, 15h. On va pas se mentir, ça ne veut pas être une émission de grands spécialistes. Hein. On va analyser, on va pas être dans les stats et dans les datas. C'est une émission.
Tu peux inviter Frédéric.
Non, c'est une émission. On va accueillir beaucoup d'auditeurs pour venir discuter avec nous. Aujourd'hui, on a quelques invités. On a Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France. Après trois semaines s'est écoulée après la finale des Jeux Olympiques contre les Américains. Donc, on fera un petit débrief et puis on reviendra sur la news, le départ de Vincent Collet avec Nicolas Batum. Donc, appelez au 32-16 puisque les auditeurs pourront discuter avec le capitaine de l'équipe de France. Il y aura du foot forcément, l'OM de De Zerbi, l'exigence de De Zerbi. On aura Sidney Govou, la légende de l'Olympique Lyonnais, qui viendra nous parler de lui, qui a eu des grands coachs. Je suis pas sûr que Sidney était friand de l'exigence, donc il nous dira si ça lui plaît.
Grand joueur, hein.
Ouais, grand joueur. Et puis on terminera.
Alors que toi, oui, l'exigence, c'était ton truc.
Moi, l'exigence.
Ouais.
Oui. Alors, j'ai du mal à supporter, Et puis on réveillera Eric Salio, qui alors lui, ce sera le breakfast à New York en direct de l'US Open. On reviendra sur le calendrier infernal, puisque les tennisman chouinent. Il y a trop de matchs. On est fatigué, il fait chaud à New York. Puis c'est détente, bonne humeur. Il y aura sûrement des jeux de mots, il y aura sûrement des conneries, il y aura sûrement des bêtises. Mais surtout, appelez le 32-16 parce qu'on veut avoir le maximum d'auditeurs pour discuter. C'est ambiance radio libre, antenne libre. Voilà.
13h, 15h.
La Gaudriole.
C'est le nouveau rendez-vous fort du week-end. Stephen Brunch avec Stephen Brun, évidemment, à la baguette également. Benoît Boutron, pour
exactement, Benoît Boutron.
Bonne première, les copains.
Merci beaucoup. En tout cas, je suis content puisque tous les dimanches, je vais te croiser. Enfin, pas souvent parce que tu es souvent en vacances, mais peu de fois, tu seras là. Je te croiserai. Ouais.
Enfin, on se croisera. Hein, toi qui te lèves à midi, oui, c'est à 13h. Quoi. Moi, je suis là depuis 6h. Ok.
Bravo, j'y suis. Allez, bonne fin d'émission.
À partir de 13h, Stephen Brunch, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG sur un thème du jour. Nous accueillons Philippe tout d'abord. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, tu veux t'occuper de qui là?
Moi, c'était. Je voulais juste rebondir sur le sujet Pascal sur le système de la Ligue.
La Ligue de football professionnel. D'ailleurs, on va vous donner d'autres informations. Il y a une réunion qui est en cours avec Arthur Perrault dans quelques instants. Alors, que disait Pascal justement sur ses parrainages, sur cette élection? On réécoute et après, Philippe, évidemment, eh bien, tu pourras lui répondre.
Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on, je pense qu'on le stigmatise sous prétexte qu'on a appris que s'il se faisait virer, il avait un parachute doré. C'est encore une fois le fric qui fait que on lui tire dessus. Mais bon, quand il a repris là, et quand il a été nommé à la présidence de la Ligue professionnelle de football, c'était pas brillant quand même. On sortait d'un marasme avec Mediapro, un marasme incroyable, et le Covid, double peine. Ok, le seul championnat européen qui s'est arrêté en mars. Les clubs français défend, étaient en grande difficulté. Non, mais il a raison de se défendre comme ça.
Et voilà, Pascal Duprat qui prenait plutôt la défense de Vincent Labrune. Philippe, Pascal est à toi.
Moi, sur le fond, je ne dis pas que Pascal a totalement tort. Mais moi, je suis éducateur dans le milieu amateur. Et force est de constater que M. Labrune étant là depuis un certain moment, son programme était que nous devions quand même être... la troisième, voire quatrième puissance européenne au niveau footballistique. Et que, étant donné que c'est notre président, et que ces décisions, quand même, ont été prises ces derniers temps, que le football amateur subit, parce qu'il faut en oublier un petit peu le foot amateur, et que bah, moi, je suis un employé, si demain mes résultats ne sont pas bons, on va me dire, bah, je prends la porte. Et que ce système d'élection, je trouve ça vraiment infamant. Et puis, en même, ce qui a été fait à M. Martel, j'ai écouté hier, j'étais vraiment effaré. Donc, je vois le défendre comme ça, ça m'a un petit peu dérangé, même si je peux comprendre. Hein. Je ne dis pas non plus que c'est un incompétent notoire, qu'il a tout fait mal. Il y a quand même quelques casseroles qui me dérangent, étant donné que c'est le chef de notre football et que le football
du
amateur...
Du football professionnel.
Oui, du football professionnel.
Pas du football amateur.
Oui, mais...
C'est M. Diallo, le président de ton...
Mais c'est la vitrine, c'est ce que tu veux nous dire, ouais, Philippe. Et tu reprends à ton compte ce qu'a dit Antoine Camboiré cette semaine en conférence de presse, où il a dit si c'était un entraîneur, bah, il serait viré.
Je suis éducateur, on me demande un rôle exemplaire, je dois encadrer des enfants, je suis dans le football féminin, donc je dois avoir un rôle en tant qu'éducateur d'exemplarité et en tant que président du football. Et on ne peut pas dire que le football professionnel ne dépend pas du foot amateur, ça serait une hérésie de dire ça. Et quand même, de par son projet, je pense qu'il en est très très loin. Même si je rejoins Pascal, il a dû faire face à certaines difficultés, et ça je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais je trouve que ses résultats, et la façon d'être se montrer comme ça réélu, comme si c'était un petit peu... Bon bah c'est normal, hein, le système c'est comme ça, je vais être réélu. Je trouve pas ça très correct.
Bah justement, les dernières informations avec Arthur Perrault, parce qu'actuellement, avec les syndicats, il y a une réunion pour savoir qui pourrait être enfin parrainé pour cette élection qui aura lieu dans 10 jours.
Oui, une réunion qui a débuté il y a 1h30, qui est toujours en cours. Beaucoup de discussions, notamment avec l'UNFP, qui est, on va très clairement le dire, le syndicat majoritaire de l'UAF, puisque Philippe Piat, président de l'UNFP, est une voix qui porte et qui compte beaucoup dans l'union des acteurs du football. La tendance qui se dessine depuis ce matin, c'est que Gervais Martel et Cyril Linette aient bien finalement leur parrainage de l'UEF, ce qui leur permettrait à tous les deux de se présenter à la présidence de la Ligue de football professionnel le 10 septembre. On sait que Cyril Linette est déterminé à se présenter. La question, si c'est confirmé, si cette tendance se confirme, va se poser pour Gervais Martel. On rappelle, c'est un personnage très connu du football français, invité des grandes gueules du sport hier matin, 69 ans. Il l'a très clairement dit, hein, on l'a entendu, il est fatigué, il est aussi très impliqué dans une association au quotidien. Est-ce qu'il aura la force, entre guillemets, de se présenter et de faire face à Cyril Linette et Vincent Labrune? C'est aussi une question qu'on peut d'ores et déjà se poser.
Oui, puis il a dit, on est chez les cinglés, donc si on est trop chez les cinglés, moi j'irai pas. Voilà ce qu'il nous disait hier. En substance, vous pouvez réécouter tout ça en podcast. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport. Lionel veut aussi se frotter à une GG. Bonjour Lionel.
Salut tout le monde.
Lionel, salut. Tu veux t'occuper de qui?
Bonjour Lionel.
Alors moi, je vais malheureusement m'en prendre à Jérôme Pinault, qui, alors après, je
on va relativiser, il est là pour donner son avis.
Mais alors c'était sur le tennis. Juste, on va réécouter ce qu'il disait si vous n'étiez pas avec nous, et ensuite après je te laisse la parole. C'était sur Yannick Sinner. Est-ce qu'il faut souhaiter sa défaite, Jérôme Pinault?
Ça jette surtout le pauvre et un vrai doute sur les performances de ce type. Et moi, je pense que de lui-même, si il aurait dû déjà se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision ensemble. Je vais à l'US Open. Avant d'y aller, je vous vire et je vais jouer. Je vais gagner le tournoi. T'es pas crédible. Quoi qu'il arrive, t'es pas crédible. Tu mets une sale image sur ton sport. Déjà que le tennis en a pas besoin. Je pense que c'est le coup de trop.
Voilà, c'était tout à l'heure les propos de Jérôme Pinault sur Yannick Sinner. Ouais. Lionel.
Alors en fait, voilà. Moi, j'aimerais avoir son avis sur le cas Simona Halep, qui a été suspendue pendant un an et demi pour dopage, pareil, pour produits et compagnie. Et puis, comme par hasard, bah là, elle vient d'avoir gain de cause et maintenant, il faut tout lui rembourser, tout lui rendre, mais sa carrière est fichue. Ou comme Sharapova, qui pendant 10 ans, on lui a prescrit un complément magnésium et compagnie. Et un 1er janvier, hop, c'est interdit maintenant. Elle n'a pas fait attention, suspendue, et on lui vient terminer, fin de carrière, au revoir tout le monde. Donc le souci, c'est que jurisprudence, ça veut dire quelque chose. Et jusqu'à preuve du contraire, ce que lui, on a trouvé sur lui, alors peut-être que c'était assimilé depuis longtemps, je n'en sais rien, mais c'est prouvé que ce qui a été prouvé sur lui, ça en rien, ça n'augmente ses performances. Et moi, ce qui me dérange, je ne défends pas du tout Sinner. Moi, je ne suis pas du tout pro, t'as triché, au revoir tout le monde. Mais c'est le côté donneur de leçons, parce que malheureusement, vous faites issue d'un sport que j'aime beaucoup, mais tous les derniers vainqueurs, tous sont tombés pour dopage. Alors j'en suis triste pour vous. C'est malheureux, parce que c'est un magnifique sport. Mais quand je me rappelle Thibaut Pinot, qui était monté au créneau, alors que le gars, il lui restait un an pour faire le buzz, quand il a expliqué que Nadal, il était en train de se foutre des piqûres dans l'os, parce que la douleur était trop vive, et qu'il se foutait de sa gueule. Je le mets au défi de faire du sport dans ces conditions. Ça, c'est pas du tout pour l'aider. Mais c'est ce qui me dérange, c'est ces donneurs de leçons qui souvent sont pas en direct, sauf quand on n'entend pas parler d'eux, comme Pouille qui est en train de sortir sa carrière tout seul et qui va se mêler de ça. Alors évidemment, les journalistes vont le chercher. Mais ça me dérange un peu. Je ne demande pas une solidarité, mais j'aimerais bien savoir si ils auraient la même opinion, s'ils étaient en plein au haut de leur carrière. Voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu.
Ok, alors, après, le message est passé. Jérôme, Jérôme, tu vas pouvoir répondre.
Non, mais alors moi déjà, merci de faire appel à moi, c'est sympa, merci d'avoir pensé à moi. Alors loin de moi l'idée de donner des leçons à qui que ce soit. On me demande mon avis dans cette émission, je le donne, et je trouve que lorsque un contrôle positif est établi dans un sport, on doit faire le clair autour de l'affaire avant de redonner le choix et la possibilité au joueur lui-même de reprendre son activité. Ce qui me gêne dans cette affaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contexte et l'évolution des faits et la lenteur de la procédure.
Tu ne vas pas redire ce que donc tu as dit parce qu'on a compris, mais lui, Lionel t'interpellait en disant oui, mais souvent on condamne et on suspend des joueurs pendant un an, leur carrière forcément va s'arrêter parce qu'ils s'entraînent plus ou pas assez ou parce qu'il n'y a plus de compétition et tout ça, et au final on prouve que ils n'ont rien fait. Et donc, après, on dit « Ah bah oui, mais désolé, mais c'était comme ça, c'est dans nos textes. » Est-ce que tu arrives à le comprendre ?
Moi, j'arrive à le comprendre dans le sens où on prend le temps de trouver des solutions. Et c'est ce que j'ai défendu Franck Bonamour tout à l'heure, en disant « Franck est en train d'attendre. » Et de sa part, il paye des experts pour prouver son innocence et il va perdre sa carrière. Sa carrière s'arrête, elle est finie, suite à des cas comme ça. Mais il faut au moins ça pour continuer à avoir de la crédibilité. La dernière chose que je veux dire aussi, c'est que tu me dis « Dans mon sport, les derniers vainqueurs sont tous dopés. » Là, tu dis des choses qui ne sont pas vraies, toi, puisque ni de Pogacar ni de Vingegaard sur les 5 derniers Tours de France n'ont été contrôlés positifs.
Bon, ce sera intéressant, très intéressant de continuer cette discussion entre vous, Lionel et Jérôme. Merci Lionel d'avoir composé le 32-16, mais on a un peu pris par le temps. Merci d'avoir appelé, c'est votre séquence, vous venez affronter une GG, voilà, on se parle librement, on se parle tranquillement. C'est ça aussi l'essence de nos débats sur RMC. Merci Jérôme, merci Fred.
Merci à toi.
Merci Pascal Duprat pour cette belle émission ce matin. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 9h. Retenez bien ça, 9h les copains, 9h pour les grandes gueules du sport, 3h de plaisir avec à la réalisation Alban Azaïs, à la production Kylian Vérov. Merci à tous les deux également. 11h58, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC, Lille PSG notamment.